Bonjour à toutes et tous. Bon. Ça m'apprendra à laisser toutes mes études bibliques dans ma Bible. Bonjour à toutes et tous, notamment celles et ceux que je n'ai pas eu forcément le temps de saluer ce matin. Je suis heureux d'être avec vous ce matin, de pouvoir vous apporter ce message aussi que le Seigneur m'a mis à cœur. Alors aujourd'hui, c'est un message qui s'adresse aux parents, mais qui parle tout autant des enfants. Et du coup, je vais être un petit peu directif ce matin, je suis désolé, ça ne plaira pas forcément à tous les enfants. Mais aujourd'hui, je souhaite que vous restiez et que vous écoutiez, que vous vous concentriez sur ce que je dis, sur ce que je partage. Parce que non seulement c'est pour vos parents que je le dis, mais c'est aussi pour vous. Alors je sais, j'ai eu votre âge. Moi non plus, je n'ai pas toujours été très attentif au culte. Moi non plus, des fois, je n'avais pas envie de venir au culte. Je préférais regarder téléfoot le matin. Il y avait une fois où je pouvais le faire dans l'année, c'était le dimanche de Noël, parce qu'on faisait le culte l'après-midi. Mais aujourd'hui, il y a des choses que Dieu veut vous dire à vous aussi, et vous devez les entendre. Il y a quelque temps, avec Chantal, on a reçu à la maison des amis qui vont bientôt se marier, et puis on discutait avec eux et on leur a demandé « Mais est-ce que vous aimeriez avoir des enfants ?» Et puis ils nous ont dit « Oui, on aimerait avoir des enfants. » Et après j'ai dit « Pourquoi vous aimeriez avoir des enfants ?» Là, c'était plus difficile. Ah oui, est-ce qu'on s'est déjà posé la question « Pourquoi est-ce que je veux avoir des enfants ?» À quoi ça sert d'avoir un enfant ? En général, quand on veut quelque chose, c'est parce que ça nous apporte quelque chose en retour. Pourquoi est-ce que j'ai envie d'avoir des enfants ? Qu'est-ce que c'est ma motivation à avoir des enfants ? Parce que c'est pas que juste j'ai un enfant et puis c'est chouette, hein ? C'est toute une vie, hein ? C'est pas que 18 ou 20 ans comme disent certains, c'est toute une vie. Pourquoi est-ce que j'ai envie d'avoir des enfants ? Qu'est-ce que la Bible dit sur ça ? Comment est-ce que la Bible, pourquoi est-ce que on devrait désirer avoir des enfants ? Qu'est-ce que la Bible, elle nous dit à propos de ça ? J'ai regardé un petit peu des magazines, des émissions un peu vite fait comme ça sur Internet pour voir pour quelles raisons est-ce que les gens qui ne sont pas chrétiens veulent des enfants. Alors l'idée, ce n'est pas de dire que les gens qui ne sont pas chrétiens, ils ont tort dans leur désir de vouloir des enfants. Mais c'est simplement pour qu'on puisse aussi faire une comparaison. Alors certains ont dit, alors c'était des femmes hein, forcément qui ont dit cette phrase-là, mais c'est pour me sentir femme. J'imagine que ça fait partie d'un besoin d'être pleinement accompli. Ouais, moi qui suis un homme, j'ai peut-être un peu de mal à comprendre ce que ça veut vraiment dire. Mais pour certaines femmes, eh bien, avoir un enfant, ça fait partie des choses normales en tant que femme. Des hommes ont dit, ben, moi j'ai eu un enfant parce que je voulais faire plaisir à ma femme. Certains et certaines ont dit, moi j'ai voulu un enfant pour me réparer, parce que j'ai eu des souffrances dans l'enfance, des choses comme ça, et j'avais l'impression que de devenir parent, ça allait m'aider à passer outre ces souffrances, à progresser, à être guéri, réparé. Certaines femmes ont dit, eh bien j'ai accepté d'avoir un enfant, c'était pour son père que j'ai accepté d'avoir un enfant. D'autres ont dit, eh bien c'est pour que ma famille ne disparaisse pas finalement, pour que mon nom reste quelque part. Et puis d'autres ont dit, eh bien, ben voilà, j'ai aussi eu un enfant parce que ma famille, mes amis m'ont un peu mis la pression aussi. Ah, t'as 30 ans, t'as toujours pas d'enfant. T'as 35 ans, t'as toujours pas d'enfant. T'as 40 ans, t'as toujours pas d'enfant. Voilà. Parfois, avec maladresse, parfois involontairement, des fois volontairement aussi, eh bien, on met une pression sur les gens autour de nous. Et je me suis dit, mais est-ce que... Alors, il y a sans doute des raisons qui sont plus ou moins valables dans ces choses-là. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit ? Comment est-ce que Dieu présente le fait d'avoir des enfants ? Pourquoi est-ce qu'en tant que chrétien, c'est une bonne chose pour nous d'avoir des enfants ? Alors déjà, certains d'entre vous, vous vous dites peut-être, associer enfant et bonne chose, pour moi, aujourd'hui, maintenant, c'est peut-être difficile. Et ça arrive, hein, que de penser à ses enfants, ça soit des fois une chose difficile. Il ne faut pas faire semblant, hein ? Pendant la louange, Zoé, elle s'amusait à démonter le lait pour la nettoyer, là. Elle prenait le machin, elle me le donnait, elle gigotait, elle enlevait ses chaussures et tout. Moi, j'étais là, j'aimerais juste me concentrer et pouvoir chanter. Dans ces moments-là, ça m'agace un peu. Mais j'aime mon enfant. Mais c'est vrai, des fois, je dis au Seigneur, là, j'aimerais bien qu'elle soit calme, parce que j'ai besoin de calme et de choses comme ça. Parfois, le Seigneur répond, parfois non. Mais c'est vrai, parfois, on a du mal avoir nos enfants de la bonne manière. Et je nous encourage à nous rappeler que même si on est adulte, on est toujours les enfants de quelqu'un. Hein ? Faut pas oublier, c'est pas parce qu'on devient adulte qu'on n'est plus enfant de quelqu'un. Et moi, j'espère que eh bien, mon père est fier de moi et qu'il est heureux que je sois son enfant. J'aimerais qu'on voit aujourd'hui une juste façon de considérer nos enfants bibliquement. Je ne dis pas qu'il n'y aurait pas d'autre chose à dire. Moi, je veux bien prêcher pendant 5 heures, mais je ne suis pas sûr que vous soyez prêts à endurer les assemblées générales qui viendront après. Du coup, j'ai choisi un point particulièrement et volontairement. Mais je sais qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait dire. Et j'aimerais qu'on voit cette juste façon de considérer nos enfants pour que ça nous aide à les aimer, pour que ça nous aide à les considérer pour ce qu'ils sont vraiment. Et j'aimerais que vous, les enfants, aujourd'hui, vous puissiez être touchés. Alors, quand je dis enfants, c'est les plus jeunes, mais aussi vous, hein, vous êtes aussi des enfants. Mais que vous puissiez être vraiment touchés par la parole et que vous puissiez vraiment vous attacher à ce que Dieu lui-même dit à propos de vous. Parfois, on s'attache beaucoup à ce que les autres à l'école disent de nous, ce que les parents disent de nous, ce que les gens de l'église disent de nous. Et la dernière personne à laquelle on fait attention, c'est Dieu. Et on ne se dit pas qu'est-ce que Dieu dit de moi, qu'est-ce qu'il pense de moi, comment il me voit, comment il me considère. Je vais prendre plusieurs textes qui vont me servir d'appui et je vais commencer dans la Genèse. Ce livre qui nous raconte comment Dieu a créé le monde, comment il a créé tout ce qui nous entoure, mais également comment est-ce qu'il a créé ce que nous sommes, les êtres humains. On va lire plusieurs passages dans le livre de la Genèse, donc vous pouvez garder ça, garder votre Bible ouverte sur ce livre. Et j'aimerais commencer dans le chapitre 1, après la création du monde, des luminaires, des plantes, des animaux, etc. Eh bien, voilà ce que Dieu va dire. Au verset 26. Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent. Nous ressemblons à Dieu. Nous ressemblons à Dieu. Qu'ils dominent, les hommes, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux et sur toute la terre, et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa l'homme pour qu'il soit son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. » Et ensuite, Dieu va leur dire « Voilà, vous avez le droit de manger de toutes choses, etc. que je vous ai donné, avec certaines limitations quand même. » Mais Dieu bénit ici Adam et Ève. Il bénit l'humanité. Il nous est dit que Dieu a créé les hommes à son image, à sa ressemblance. Alors même si on n'était pas touché par le péché, par les choses mauvaises qu'on fait et qui habitent en nous, eh bien on ne serait jamais aussi parfait que Dieu. Mais on est fait pour ressembler, pour refléter quelque chose de Dieu, pour avoir une ressemblance avec Dieu, pour qu'on soit en communion avec lui. C'est le désir de Dieu. Dieu veut qu'on puisse être en communion avec lui. C'était son désir avec Adam et Ève dans le jardin. Et la communion, elle a été brisée par le péché, on le verra aussi après, par la désobéissance. Mais Dieu a créé les êtres humains pour qu'ils lui ressemblent, pour qu'ils soient en communion avec lui et pour qu'ils le représentent sur la terre et qu'ils prennent soin de la création. Adam et Ève, ils avaient un job, ils avaient un truc à faire, ils avaient un travail que Dieu leur avait confié. Ils avaient une responsabilité. Et il nous est dit aussi que Dieu a créé la différenciation sexuelle. Il a créé Adam et Ève, il les a créés hommes et femmes. Ce n'est pas dans le texte comme ça, juste parce qu'il fallait combler et qu'il n'y avait pas assez de mots dans la Bible. Hein. Ça nous est rapporté parce que ça a un sens. Dieu va bénir cet homme et cette femme qui sont différents. Et il va leur dire, cette bénédiction que Dieu fait reposer sur l'homme et sur la femme, sur Adam et sur Ève et sur nous qui venons après eux, c'est de dire, soyez féconds, soyez capables de porter la vie. Multipliez-vous, restez pas juste vous deux, Adam et Ève, tous les deux, comme des gens égoïstes. De toute façon, à l'époque, il n'y avait pas encore de péché, ils ne pouvaient pas être égoïstes. Mais multipliez-vous, ayez des enfants, remplissez la terre, rendez-vous en maître. Multipliez-vous, remplissez la terre, ce n'est pas que Adam et Ève. Hein. S'ils avaient dû remplir la terre à eux tout seuls, les pauvres, Vous imaginez bien la fatigue que ça aurait été ? C'est une bénédiction, cette bénédiction qui n'est pas que pour Adam et Ève. Elle est pour nous avec eux, à leur suite. Dieu, lui aussi, veut que nous soyons faits, qu'on se multiplie, qu'on ait des enfants et qu'on participe au fait de remplir la terre. Alors, pas remplir pour remplir. Hein. L'idée de Dieu, ce n'est pas juste qu'il y ait des êtres humains partout sur son plateau de jeu, si on voulait un peu faire une métaphore. De toute façon, notre vie n'est pas un jeu pour Dieu. Mais ce que Dieu veut, c'est que la terre soit remplie des êtres humains parce qu'il nous donne la terre en cadeau. Et il veut qu'on la saisisse tout entière et qu'on s'en occupe tout entière. Adam et Ève sont les deux premiers bénéficiaires de cette bénédiction, mais elle court pour nous encore aussi aujourd'hui. On dit souvent « bénir », c'est dire du bien de quelque chose ou de quelqu'un. C'est faux. C'est une mauvaise étymologie. Ça n'est que juste en partie. Là, Dieu ne dit pas spécialement du bien des hommes ou autres. Dieu dit « ce que je vais dire maintenant, c'est ce que je vais accomplir pour vous. C'est comme ça que je vais vous faire du bien. C'est comme ça que je vais vous bénir. » En ce que vous allez être fécond, vous allez vous multiplier, vous allez remplir la terre, vous allez vous en rendre maître, vous allez dominer sur les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. Ça, c'est la bénédiction que je vous donne à vous, les êtres humains, à commencer par Adam et par Ève. Et au verset 31, il est dit qu'à la fin de toute cette œuvre créatrice de Dieu, eh bien Dieu va considérer tout ce qu'il avait fait et il trouva cela très bon. La cerise sur le gâteau de la création de Dieu, c'est que l'être humain est créé pour ressembler à Dieu, pour être en communion avec lui, mais aussi pour être fécond, pour se multiplier, pour remplir la terre. C'est très bon. C'est très bon. C'est pas juste un peu bon, ou bien, ou pas mal. C'est très bon. Et avant la création de l'homme, Dieu n'a jamais dit « c'est très bon ». Jusqu'à ce que l'homme soit créé, Dieu a dit « c'est bon ». Et déjà, quand Dieu dit « c'est bon », c'est déjà bien plus merveilleux que tout ce que nous, on peut faire. Mais pour Dieu, sa création, son œuvre créatrice s'achève avec la création de l'homme. De l'homme avec un grand H, un être humain. L'homme et la femme sont tout au-dessus de sa création. Ils couronnent son œuvre créatrice parce qu'il représente quelque chose de Dieu. Qu'on croit en Dieu ou pas, hein. Même si on ne croit pas en Dieu, c'est la même chose. On est quand même en image de Dieu. Et personne, aucun d'entre nous est né en croyant par défaut à Dieu. On a peut-être cru facilement qu'il existait, mais par défaut, quand on est sorti du ventre de notre mère, aucun d'entre nous n'était déjà sauvé. Et pourtant, on était quand même en image de Dieu. Même quelqu'un qui est handicapé est en image de Dieu. Même quelqu'un qui n'a pas été désiré par ses parents est en image de Dieu. Même quelqu'un dont qu'on a peut-être essayé d'avorter est en image de Dieu. L'être humain est un reflet extraordinaire de Dieu. Touché par le péché, abîmé, brisé, froissé, tout ce que vous voulez, mais reflet de Dieu quand même. Quand même. Et les enfants, nos enfants, sont un reflet de Dieu. C'est parfois difficile, hein, de regarder nos enfants et de se dire, eh bien, Dieu les a créés parce qu'il veut être en relation avec eux, en communion avec eux, il veut les connaître. Dieu contemple sa création. Tout ce qu'il a fait en 6 jours, c'était bien, mais ce qu'il a fait le dernier jour, c'était très bon. Nous faisons partie du très bon de Dieu. La bénédiction de pouvoir donner la vie, de pouvoir se multiplier, de pouvoir être fécond, c'est vu comme étant très bon. Être capable de porter la vie, ça fait partie de la volonté créatrice de Dieu. Dieu veut que l'être humain ait des enfants. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous êtes une réponse au désir créationnel de Dieu. Si vous êtes là, il n'y a aucun hasard dans le fait que vous soyez là. Vous êtes là parce que Dieu a voulu que vous soyez là. C'est bien de se rappeler que Dieu a voulu que nos enfants soient là, Et c'est bien pour vous, les enfants, de comprendre que Dieu voulait aussi que vous soyez là. Ce n'est pas juste par rapport à vos parents que vous avez été là. Hein. C'est un désir de Dieu aussi. Mais c'est vrai, parfois, vous vous dites peut-être, mais il y a des gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Il y a des gens qui sont stériles. Oui. Oui. Ça ne change pas la nature de Dieu. Dieu peut enlever la stérilité d'une personne miraculeusement s'il le veut. Parfois, il le fait, parfois, il ne le fait pas. Nous nous retrouvons confrontés à la justice, à la souveraineté de Dieu. Parfois, il répond favorablement à nos demandes et parfois non. Oui, parfois, il y a la stérilité, même si le désir de Dieu est que nous ayons des enfants, parce que le péché touche tout. Le péché n'épargne rien ni personne. Et il n'épargne même pas la bénédiction que Dieu a donnée. Genèse 3. Au verset 14, il est dit, c'est après que Satan soit venu tenter Adam et Ève dans le jardin et que Adam et Ève aient désobéi. Et Dieu dit, alors l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, puisque tu as menti à Adam et Ève, puisque tu les as fait pécher, puisque tu leur as fait douter de mes paroles, puisque tu as fait cela, te voilà maudit parmi tout le bétail et les animaux sauvages, tu te traîneras sur le ventre et tu mangeras de la poussière tout au long de ta vie. Je susciterai l'hostilité entre toi-même et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui écraseras le talon. C'est le combat que nous vivons en tant qu'enfants de Dieu par rapport à ceux qui suivent Satan. Et c'est le combat que nous vivons en tant qu'enfants de Dieu par rapport au diable, qui veut, lui, venir nous écraser la tête. Nous écraser, pardon, le talon, mais nous pouvons lui écraser la tête. Notre talon qu'il essaye de mordre peut écraser la tête de celui qui nous attaque. Lui, il ne peut pas toucher notre tête parce qu'il est par terre, il rampe, il se traîne, parce que Satan a perdu. Mais ça ne veut pas dire que pour autant la lutte, elle n'est pas encore présente ici, dans les faits. Dieu dit à la femme, ça c'est le passage qui nous intéresse le plus, entre guillemets, « Je rendrai tes grossesses très pénibles, paye ta bénédiction. » Je rendrai tes grossesses très pénibles et tu mettras tes enfants au monde dans la souffrance. Ton désir se portera vers ton mari, mais lui te dominera. Ah ! Ah ! Bon. Bon. Donc Dieu a dit, je vous bénis, vous allez être fécond, vous allez avoir une descendance, vous aurez des enfants, vous allez vous multiplier, vous allez couvrir la terre, je vous donne la terre, elle est pour vous. Et là, eh ben, tu vas avoir mal. Tu vas souffrir, ça va être pénible. Et ton mari dominera sur toi. Parce que le péché n'épargne rien du tout. Même la bénédiction que Dieu avait donnée est touchée par le péché. Dieu aurait très bien pu dire, bon, bah ça, on va le laisser comme c'était, voilà. Ève a péché. La bénédiction qui lui était particulièrement attachée est aussi touchée par ce péché. Mais Dieu dit quand même qu'il y aura des enfants. Dieu dit pas, ah, zut, bon, tant pis, ben, vous serez plus fécond, quoi. En fait, c'est plus simple. Et pensez bien à leurs enfants, à Caïn et Abel. Waouh, quelle bénédiction. Hein ? Quand il y en a un qui tue son frère, par jalousie. Mes enfants, c'est une bénédiction, vraiment. Quand ils se disputent, quand ils se crient dessus, quand ils se frappent, quand ils s'insultent, quand ils sont durs, difficiles, quand ils ne veulent pas venir à l'église, quand ils ne veulent pas prier, quand ils ne veulent pas écouter, quand ils désobéissent, quand ils ont des mauvais résultats à l'école. Hein ? Quoi ? Mes enfants, c'est une bénédiction ? Oui. 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 Nos enfants sont une bénédiction. Malgré tout ça. Un jour, je parlais à ma mère et elle m'a dit, tu sais, j'ai tellement prié pour toi. Parce qu'elle avait l'espérance aussi que, tout autant en bénédiction que j'étais, ben, j'étais aussi une bénédiction casse-pied. Et que je l'étais en particulier parce que je ne connaissais pas le Seigneur. Je pense qu'après, j'étais moins casse-pied. Je ne dirais pas que j'étais devenu parfait parce que ce n'est pas vrai. Mais ma mère a prié parce qu'elle avait cette pensée vraiment que j'étais là parce que le Seigneur voulait que je sois là. pour moi, ça a été très difficile d'accepter que... Alors, pas que mes parents voulaient de moi, parce que j'ai jamais douté de ça. Ce qui a été difficile, c'est que la maladie de ma maman s'est déclenchée juste après ma naissance. Et que je me suis toujours senti responsable de ça. Et quand ma mère est décédée, Satan est revenu vers moi avec ses... Je savais, hein. Je ne pense pas qu'à Brunois, vous pourrez vous séparer de pasteurs qui pleurent. C'est peut-être votre sacerdoce à vous, hein, mais... Satan est revenu avec ces questions-là une nuit, en disant, mais tu vois, hein, là, c'était après ta naissance, et puis ta mère a dû être opérée à cause de ça, du coup, c'est un peu ta faute quand même. Hein. Bah, j'entendais bien. Je savais que c'était pas vrai, hein, mais j'entendais ça quand même. Des fois, est-ce qu'on n'est pas un peu décourageant aussi, nous, avec nos enfants ? Ah, mais on t'aime, hein ! Tu pourrais pas être plus gentil ? Ah, dit comme ça, waouh, on se sent aimé, c'est sûr. Est-ce qu'on dit à nos enfants, mais je t'ai voulu. Si t'es là, c'est volontaire, j'avais envie que tu sois là. Moi, des fois, Zoé, elle me casse les pieds. Mais je lui dis après, mais excuse-moi de m'être énervé après toi, même si elle ne comprend pas tout. Moi, j'ai besoin de lui dire. Et je lui dis, mais je t'aime, j'ai voulu que tu sois là. J'ai commencé à prier pour toi, j'avais 19 ans. J'ai prié non-stop pour mes futurs enfants tous les jours, enfin presque non-stop. Presque non-stop tous les jours à partir de mes 19 ans. Parce que j'ai dit au Seigneur, si tu me donnes des enfants, bah, de toute façon, c'est déjà dans ta pensée, ça se fera, autant gagner du temps. Eh, pas fou. Mais est-ce qu'on dit à nos enfants qu'on est heureux qu'ils soient là, qu'on les aime, qu'on est content d'eux ? Hein, moi, Satan, il était là, genre, ah, tu vois, si t'avais pas été là, ce serait peut-être différent. Ah bah ouais, ah, ce serait beaucoup moins drôle sans moi. Mais oui, le péché a tout touché. La bénédiction que Dieu a donnée aux êtres humains, elle a été touchée par le péché. On ne peut pas y échapper. Mais si vous avez déjà eu des enfants, vous vous rappelez comme c'est merveilleux de voir que, au début, ça ne ressemble pas à grand-chose, on est d'accord. Hein. Et moi, je me rappelle quand Chantal était enceinte, elle me disait « Ah, tu sais qu'à ce stade-là de la grossesse, ben Zoé, elle a la taille d'un noyau de pêche. » J'étais là genre « Ah, c'est petit quand même. » Mais est-ce que vous vous rappelez comment vous avez regardé avec émerveillement, j'espère, la manière dont votre enfant il s'est développé ? Je me rappelle hein, la première fois que j'ai entendu. Oh. La première fois qu'on entend le cœur de son enfant qui bat et qu'on se dit « Waouh, il y a vraiment la vie !» Au début... Ça paraît un peu étrange, hein, parce que bon, c'est vrai que le temps que ça se forme, l'enfant, bah, on a du mal à voir l'enfant. Hein. Mais quand on entend son cœur la première fois, moi je me disais, voilà, ouais, ça bat vite. Et le médecin disait, tout va bien. Bon, ok, d'accord, tant mieux. Oui, tout a été touché par le péché. Les relations avec nos enfants, elles sont parfois difficiles parce qu'il y a le péché qui est là. Et puis des fois, c'est aussi nous qui rendons la vie difficile, hein. Les enfants ne nous épargnent pas, mais des fois, on n'épargne pas non plus trop nos enfants. Hein. On attend des choses de leur part. Il faut qu'ils se comportent comme des chrétiens, hein. Même quand ils ne sont pas chrétiens. Ça n'a aucun sens. Ça ne veut pas dire qu'il faut les laisser faire ce qu'ils veulent. On les éduque dans ce qu'on pense être vrai, dans ce qu'on pense être juste, dans ce qu'on pense être bon pour eux. Mais des fois, on leur dit maladroitement, « Pourquoi tu fais ça, t'es chrétien ?»« Ah bon ? » Être d'une famille chrétienne, ça n'est pas être chrétien. Mais malgré le péché qui touche la bénédiction, nos enfants sont toujours une bénédiction. Ça n'a pas changé. Et après, je vais vous le prouver avec la Bible. Comme ça, si vous ne me croyez pas maintenant, eh ben, vous serez peut-être plus convaincus par la parole du Seigneur. Les grossesses, elles deviennent pénibles. La procréation, ce sera source de douleur. Tu mettras au monde tes enfants dans la souffrance. Ça ne donne pas très envie d'avoir des enfants, mesdames. Hein. Enfin, je pense, je ne veux pas, après, peut-être que vous avez envie quand même. Hein, mais vu comme ça, on se dit, mais mince, qu'est-ce qui... Enfin quoi ? Le Seigneur a dit, c'est une bénédiction que je vous donne d'avoir des enfants et maintenant on va souffrir. La sexualité qui était le moyen pour la bénédiction, hein, pour avoir des enfants, pour qu'il y ait procréation, et je ne vous apprends rien, il faut avoir des relations sexuelles. Hein, même si aujourd'hui on essaye de chercher parfois d'autres moyens. Et bien cette sexualité-là, elle est aussi touchée par le péché. Tu auras des désirs envers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. la bénédiction de l'acte sexuel, eh bien, c'est aussi touché par le péché. La bénédiction qui reposait sur l'être humain, elle est définitivement touchée. Celle de la procréation, cette bénédiction de pouvoir avoir des enfants, procréer, couvrir la terre, elle est touchée, mais aussi celle de s'occuper de la terre, qui vient avec celle de la procréation. Elle aussi, elle est touchée par le péché. C'est dit, hein, à Adam, bah maintenant tu vas travailler, mais ça va être dur. Hein. Ouais. Ta désobéissance, elle a des conséquences. Tu vas travailler la terre, mais tu vas souffrir. Ça va être difficile, il y aura des ronces, ça va être fatigant. Tu vas t'abîmer les mains, tu vas t'abîmer le dos, tu vas t'abîmer les pieds. Ça ne va plus être simple maintenant. Mais tu es quand même toujours responsable de la terre que je te donne. Je ne t'enlève pas ma bénédiction, hein, mais elle est touchée par ton péché. À cause de toi, tu t'es rendu le travail difficile. Tu t'es rendu tes grossesses difficiles. Alors à ce stade-là, on pourrait se dire, mais avec tout le péché, vraiment, les enfants, c'est toujours une bénédiction, encore aujourd'hui, malgré tout. Je vais vous lire un texte, vous pouvez juste l'écouter. Genèse 9, après le déluge. C'est important. Dieu bénit Noé et ses fils et il leur dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Ah bon ? C'est les mêmes paroles que Dieu a dites à Adam et Ève quand il a tout créé dans la Genèse. Dieu a presque tout enlevé de ce qu'il avait fait au début. Et il recommence quelque chose en reprenant les mêmes termes. Le péché, il est là. Il est bien ancré, à tel point qu'il a fallu se séparer de presque tous les êtres humains. Et pourtant, Dieu va s'adresser à Noé et à ses fils et il va leur dire la même chose qu'il a dite à Adam et Ève avant le péché. Il leur a dit, vous allez être féconds, vous allez vous multiplier et vous remplirez la terre. Oui, les grossesses donneront de la souffrance. Oui, les enfants apporteront des fois des difficultés. Mais c'est la bénédiction que je dépose sur vous à nouveau, comme je l'ai fait au départ. Je la redépose sur vous. Et il le redit au verset 7. Vous donc, après avoir dit « Dieu a fait l'homme pour être son image », c'est pourquoi si quelqu'un répand le sang d'un homme, son sang à lui doit être répandu par l'homme. Donc là, Dieu traitait une autre question, la question de la valeur de la vie humaine notamment, et aussi de la vie animale. Mais il dit ensuite « Vous donc, soyez féconds, multipliez-vous ». Et répandez-vous en grand nombre sur la terre. Dieu conserve sa bénédiction. Oui, la bénédiction est touchée par le péché en toute chose. Ça rend nos relations conjugales difficiles, ça rend nos relations de parents à enfants difficiles, ça rend pour nos enfants la relation difficile avec nous, mais c'est toujours une bénédiction. Moi, des fois, je suis choqué quand je suis dans des magasins ou des choses comme ça et que j'entends des gens parler à leurs enfants et leur dire des choses horribles. Et je me dis, s'ils entendent ça toute leur vie, toute la journée, mais ces gens-là, ils ne voudront jamais d'enfants. Ils penseront jamais qu'ils sont une bénédiction pour leurs parents. Et puis, ils vont dire, mais moi, j'ai rien demandé. Certains, j'en ai entendu, ont déjà dit, mais moi, je ne voulais pas être là. Tu crois que j'ai choisi, moi ? Tu te plains, mais c'est toi qui as fait que choix, là. C'est destructeur, la manière dont on peut parler parfois à nos enfants. Et pourtant, la bénédiction perdure. Dieu, après avoir jugé la terre par le déluge, y commence quelque chose de nouveau avec Noé et ses fils, avec sa famille. Quelque chose qui a des accents de la nouvelle création. Oui, Dieu va recréer quelque chose avec Noé et sa famille qui est comme ce qu'il a créé au départ. Entre Genèse 1, 2 et 3 et Genèse 9, c'est les mêmes termes qui sont pris. Les enfants, c'est encore et toujours vu comme le moyen pour Dieu de bénir les hommes. Les familles les plus nombreuses, eh bien, c'est celles qui ont matériellement le plus de bénédictions visibles parce qu'elles ont le plus d'enfants. Pour l'instant, Dieu nous a donné avec Zoé d'être bénis une fois. Peut-être qu'on sera bénis d'autres fois après par d'autres enfants, j'espère. Mais parfois, on se dit, ah ben mes enfants, ce sera une bénédiction quand ils seront chrétiens, ce sera une bénédiction quand ils feront des choses pour moi, ce sera une bénédiction quand ils seront finalement obéissants, ce sera une bénédiction quand dans mes vieux jours, je ne pourrai plus, moi, faire ce que j'ai à faire, ben je compterai sur mes enfants. Ah, ça ne veut pas dire que les enfants ne doivent pas aider leurs parents. Hein. Mais parfois, on ne comprend pas que c'est l'enfant en tant que tel qui est une bénédiction. Pas ce qu'il fait, pas ce qu'il apporte, pas son statut vis-à-vis de Dieu particulièrement, mais c'est l'enfant en tant que tel. Et en tant qu'enfant, vous êtes une bénédiction pour vos parents. Vous êtes parfois une bénédiction capricieuse, une bénédiction mal lunée, une bénédiction désobéissante, et après, vous savez très bien quoi mettre derrière. Hein. Mais Dieu vous voit comme étant une bénédiction pour vos parents, et Dieu vous a donné à vos parents pour être une bénédiction pour eux. Et c'est ce que vous êtes. Quand Dieu nous donne des enfants, il exerce sur nous sa bénédiction d'une manière pratique. Dieu continue de bénir jour après jour des gens, des personnes, des couples en leur donnant des enfants. Et même si la bénédiction elle a été touchée par le péché à cause de la faute d'Adam et Ève, ben le fait d'avoir des enfants, c'est toujours une bénédiction, encore et toujours. Je répète, mais on doit ancrer ça dans notre tête. Quand je regarde Zoé, je sais que Dieu m'a béni au travers d'elle et qu'il me bénit encore maintenant au travers d'elle. Dieu veut nous faire du bien à nous, ses créatures, en nous donnant des enfants. Alors, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'enfants dans une famille que ça veut dire que Dieu nous a maudits, que Dieu nous a abandonnés, que Dieu nous a oubliés. Je connais des gens qui sont chrétiens, qui sont des gens qui aiment le Seigneur, qui le servent avec vérité, avec justice, et qui n'ont pas d'enfants. Irais-je leur dire, eh bien, sans doute, il y a des péchés que vous cachez, des choses que vous ne voulez pas confesser, ou bien vous êtes maudits, tout simplement. Je ne leur dirai jamais ça. Et si peut-être certains d'entre nous, on est touchés par ce problème-là, eh bien, je veux vous faire savoir que vous n'êtes pas maudits par le Seigneur. Et que si c'est une souffrance pour vous, vous avez le droit de prier Dieu pour ça. Peut-être Dieu vous donnera des enfants et fera un miracle. Peut-être pas. Mais allez vers Dieu. Ouvrez votre cœur à Dieu. Vous vous souvenez du texte que Stéphane nous a lu ? Où la mère de Samuel, elle pleure tellement qu'on a cru qu'elle avait un petit coup dans le nez, qu'elle avait trop bu, qu'elle était ivre. Mais elle était tellement triste, il y avait tellement de choses sur son cœur qu'elle a été prête à dire « Si tu me donnes un enfant, ben je te le rends. » Elle voulait être bénie par Dieu. Dans notre société aujourd'hui, il ne faut pas trop avoir d'enfants parce que ça coûte cher, parce qu'il faut s'en occuper, parce que c'est long de s'occuper d'un enfant. Parce que des fois, c'est pénible, des fois, c'est fatigant, des fois, c'est décourageant. Il ne faut pas trop avoir d'enfants. Et puis surtout, si on a des enfants, on n'est plus libre. C'est terrible. Alors, je ne fais pas semblant. Bien sûr qu'avoir des enfants, ça fait qu'il y a des activités qu'on ne peut plus faire ou moins faire. Mais est-ce que c'est mieux ? Est-ce que c'est une meilleure bénédiction de pouvoir aller comme on veut au resto ou au cinéma ? Ou c'est mieux d'avoir comme bénédiction quelque chose que la parole dit être une bénédiction. Oui, Dieu veut nous faire du bien et veut nous bénir par nos enfants. Et je pense qu'une des réponses que l'on peut donner à la question « Pourquoi tu veux des enfants ?» c'est de dire « Ben parce que je veux être béni par Dieu. » Je veux être béni par Dieu. Et je reconnais qu'avoir des enfants, c'est être béni par Dieu. David, dans le psaume 51, il a reconnu qu'il a été conçu dans le péché. Ça ne veut pas dire que sa mère avait une relation adultère, mais ça veut simplement dire qu'il était déjà touché par le péché dès sa conception. Et pourtant, la parole dit que les enfants sont une bénédiction. Je vais vous lire quelque chose dans un psaume. Je vous invite à bien écouter. Si je ne vais pas dans le bon sens de ma Bible, vous allez attendre longtemps. C'est un psaume que Georges a déjà effleuré ce matin, le psaume 139. Et j'aimerais lire quelques versets avec vous et je vous demande simplement de fermer les yeux et d'écouter. Et de vous dire que ces paroles-là, Dieu David les a consignées, elles sont vraies pour lui et elles sont vraies pour chacun d'entre nous. David a confessé la chose suivante. Il s'adresse à Dieu et il dit « Tu m'as fait ce que je suis et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère ». Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. On est merveilleux parce que notre Créateur est merveilleux et qu'on lui ressemble. Tu fais des merveilles. Là, il parle des enfants, des créatures de Dieu, des gens que Dieu fait naître. Et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux quand dans le secret je fus façonné et tissé, comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais. Et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destiné, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Combien tes desseins, ô Dieu, sont pour moi impénétrables, et comme ils sont innombrables. Si je les comptais, ils seraient bien plus nombreux que les grains de sable sur les bords des mers. Voici, je m'éveille, je suis encore avec toi. Pensez à vos enfants en mettant ce texte-là en parallèle. Regardez vos enfants au travers de ce que Dieu a mis sur le cœur de David le concernant lui. C'est vrai pour David et c'est vrai pour chacun d'entre nous. Nous sommes des créatures merveilleuses parce que nous sommes créatures de Dieu le Père. Nous sommes merveilleux non pas parce que nous sommes parfaits dans notre apparence ou dans notre conduite ou quoi que ce soit. Nous sommes des créatures merveilleuses parce que Dieu nous a créés et qu'il a fait de nous des bénédictions pour nos parents. Ce n'est pas parce que le péché crie à nos oreilles tout le contraire que nous devons l'écouter. Ce qui compte, c'est ce que dit la Bible. Donner naissance, ce n'est pas une question de hasard. Dieu crée chaque enfant. Et pour ça, il utilise tous les procédés que lui-même il a établis dans ce qu'on appelle la nature. Quand Chantal est tombée enceinte, ce n'est pas juste à cause de Chantal et moi. Dieu avait son regard sur nous et il a accompli pour nous, par les lois qu'il a définies et décidées pour la procréation, eh bien, il a permis que Zoé puisse venir au monde. Dans 2 semaines, je prêcherai devant vous sur une question qui est extrêmement difficile, celle de l'avortement. Et on se posera une question, notamment, qui est de se dire à partir de quel moment est-ce qu'on est considéré comme une créature vivante ? À quel moment ? Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais. Et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Je vous donne presque la réponse, hein. Mais ce n'est pas juste nous, comme ça, tout seuls, qui faisons qu'on a un enfant. Dieu veille sur cela. Dieu l'accomplit, Dieu le fait pour nous, au travers des procédés qu'il a décidés. Ce n'est pas juste la nature toute seule, et puis Dieu est là-haut, et puis d'un coup il dit « Ah, eux, ils ont eu un enfant, bon, il faut peut-être s'occuper de créer quelque chose pour lui. » Alors qu'on était une masse informe, alors qu'on n'était même pas gros comme un noyau de pêche, Dieu avait déjà inscrit tous les jours de notre vie dans son registre. Tous. Dieu joue un rôle primordial dans la venue de nos enfants au monde. Dieu s'occupe de toutes choses. Et regardez avec quel soin Dieu le fait. Regardez les termes que David emploie. Tu as fait ce que je suis. Il m'a fallu du temps pour faire la paix avec Dieu sur le fait que j'étais timide et émotif. Et un jour, j'ai lu ça, j'ai dit, oh Seigneur, mais... Oui, le péché sans doute touche ça aussi. Mais je lui ai dit, demain, je vais sans doute pas être exubérant. Parce que ce n'est pas comme ça que tu m'as fait. Je suis ce que je suis. Je progresse avec le Seigneur. Dieu m'aide, hein. Je l'ai même confessé devant vous là, dimanche dernier, hein, où je vous ai dit des choses que le Seigneur m'avait montrées et pour lesquelles j'avais besoin de progresser. Mais Dieu nous a fait ce que nous sommes. On devrait être heureux, fiers de ce que Dieu a fait, qui nous sommes comme nous sommes. Et s'il y a des choses effectivement que le péché touche et qui doivent changer, eh bien demandons à Dieu de les changer. Mais n'essayons pas de devenir ceux que Dieu n'a pas voulu que nous soyons. Vous savez, Dieu, il n'a pas cliqué au mauvais endroit le jour de la conception. Après, il a fait « Aïe !» Bon, tant pis, il sera petit et rondouillard. Dieu a fait de nous ce qu'il voulait qu'on soit. Et c'est pour ça aussi que toute la variété de ce qu'on est ici aujourd'hui et par rapport à toutes les autres personnes du monde. C'est pour ça qu'elle est merveilleuse. Moi, ma mère, elle me disait toujours, mais ta petite sœur, je ne la comprends pas. On s'est occupé d'elle comme on s'est occupé de vous, et elle est tellement différente. Si c'était encore le cas aujourd'hui, ben, je pourrais dire à ma maman, écoute, elle est ce que Dieu a voulu qu'elle soit. Je sais qu'elle a donné des fois du fil à retordre. Hein. Et même encore des fois, on n'est pas trop d'accord sur tout. Mais elle est comme elle est, parce que le Seigneur a voulu qu'elle soit comme ça. Je suis comme je suis, parce que le Seigneur a voulu que je sois comme ça. Il veut m'aider à progresser pour arriver un jour à ce que l'image de Christ soit entièrement formée en moi. Mais je suis ce que je suis. Je suis émotif, je pleure facilement quand je suis ému, quand je suis touché. Je parle beaucoup. Mais je travaille sur ça aussi. Mais nos enfants sont ce que Dieu a voulu qu'ils soient. On a besoin que Dieu ancre cette pensée en nous profondément pour qu'on arrive à aimer nos enfants comme ils ont besoin d'être aimés. Et qu'on arrête de leur dire « Ah, si seulement t'étais comme un tel !» Ce n'est pas un tel. Et si un tel était votre enfant, bah vous auriez d'autres problèmes qui seraient peut-être plus compliqués que ceux que vous avez maintenant. Acceptons que Dieu nous a donné nos enfants comme ils sont parce qu'il a voulu qu'ils soient comme ça. Et en plus, Dieu n'a pas fait ça à la va-vite. Il a dit, tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Vous avez déjà vu quelqu'un qui tisse une toile, qui fait de la tapisserie ou autre? Alors peut-être pour les plus jeunes, pour vous, la tapisserie, c'est juste le truc qu'on colle au mur. Mais la tapisserie, c'est aussi quelque chose qu'on fait avec du fil, des aiguilles, etc. On fait des tableaux en tapisserie. Voilà, en plus, vous aurez appris un petit truc. Du coup, vous repartirez en ayant une connaissance supplémentaire. Mais il est dit, tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Tu as pris le temps de t'occuper de moi, de me former. Tu as pris le temps de me façonner. Alors la question qui demeure, c'est mais alors pourquoi est-ce que des fois il y a des gens qui naissent handicapés? Mais le péché ne dit pas, la Bible ne dit pas que le péché eh bien, évite l'embryon. Mais Dieu est souverain aussi sur ça. Moi, c'était une de mes plus grandes craintes que Zoé soit handicapée, parce que je ne savais pas si j'arriverais à l'aimer comme il fallait que je l'aime. Alors le Seigneur a été bon, hein, il ne m'a pas mis dans cette situation-là. Mais est-ce qu'on arrive à avoir comme regard sur nos enfants de se dire « je suis nos enfants sont ce qu'ils sont, Dieu les a tissés, il a pris du temps pour qu'ils soient ce qu'ils sont. » Et vous, en tant qu'enfant, vous avez le droit de vous dire « je suis ce que je suis, imparfait c'est sûr, mais je le suis parce que Dieu a voulu que je sois comme ça. » Dieu a voulu que je sois comme ça. Quand je faisais du basket, j'aurais bien aimé être plus grand. Alors j'étais meneur de jeu, c'était pas trop grave, hein, mais je disais des fois au Seigneur « bon, si j'étais un peu plus grand... Bon, ce ne serait pas préjudiciable, quoi. Je suis ce que je suis, parce que Dieu m'a tissé comme ça, dans le ventre de ma mère. Il a fait de moi une créature merveilleuse, et je suis appelé à le reconnaître. Et même si la maladie de ma mère s'est développée après que je sois né, je ne suis pas responsable de ça. Et aujourd'hui, eh bien, si le diable essaye de revenir vers moi avec ça, je lui dirais, écoute, tu peux garder tes mensonges pour toi. Ne me fais pas perdre mon temps. J'ai d'autres choses plus importantes à faire. Même au tout début de sa vie, quand l'enfant n'est qu'une masse informe, eh bien Dieu le voit, il y prend garde, il s'occupe de lui, il l'aime, il le veut, il le désire, il écrit pour lui tous les jours de sa vie dans son registre. Est-ce que, en tant que parent, ça ne vous enlève pas une certaine pression de savoir que Dieu a écrit tous les jours de la vie de vos enfants dans son registre à l'avance? Et que tout ne dépend pas ultimement de vous? Ah, attention, hein, je ne dis pas qu'il ne faut plus rien faire, hein. Mais tout ne dépend pas de nous. Il y a des choses qui doivent être abandonnées à Dieu parce qu'il n'y a que lui qui peut les faire. Mais tous les jours que passent nos enfants, ils sont écrits dans le registre de Dieu. Et tous les jours que nous, on vit aussi, avant même qu'on existe, Dieu les avait déjà écrits. Ce jour-là était déjà écrit. C'est fou, hein ? Enfin, moi, je me sens dépassé. Mais Dieu a écrit tous les jours, Dieu dans son registre pour nos enfants. Tout ce à quoi nous destine est déjà choisi et établi par Dieu, et c'est la même chose pour nos enfants. Et ça, c'est extraordinaire. Les enfants, peut-être que vous avez hors des enfants. J'aime pas vous appeler comme ça parce que ça fait un peu petit et réducteur, mais en tout cas, je ne sais pas si vous avez vraiment confiance en Dieu. Quand on vient d'une famille chrétienne, c'est compliqué de se positionner. Moi, j'ai eu du mal. Hein, parce que vu que j'étais tout le temps dans l'église, que je faisais tout comme mes parents, même si mes parents me disaient que ce n'est pas ça qui me sauvait, hein, je pensais quand même que quelque part Dieu allait faire attention à ça, si jamais je venais à mourir. Je ne sais pas si vous avez vraiment confiance en Dieu, mais réalisez que tous les jours que vous vivez, chaque jour quand vous vous levez, vous pouvez vous dire Dieu a inscrit ce livre, ce jour, dans son livre, dans son registre, alors même que j'existais pas, que j'avais même pas la taille d'une pêche ou que j'étais même pas une espèce de boule informe. Si vous vous sentez seul, si vous vous sentez délaissé, pas aimé, rappelez-vous que Dieu a écrit le jour que vous passez dans son registre. Il y a peut-être des fois où ça va vous révolter. Vous allez dire, pourquoi est-ce que Dieu il a écrit des jours aussi nuls ? Dieu est là même dans les jours qu'on trouve aussi nuls. Quand ma mère est décédée, Dieu avait écrit ce jour-là dans son registre et Dieu était avec moi. Tout comme il était avec moi le jour où Zoé est née. Je m'en rappellerai toujours. Ça, je n'oublierai jamais. Ni l'un ni l'autre. Mais les deux étaient inscrits dans le registre de Dieu. Et je veux vous encourager à faire confiance à Dieu. Dieu n'est pas absent des jours que vous vivez, que vous soyez enfant ou parent. Dieu n'est pas absent des jours que vous vivez. Dieu a donné la bénédiction à l'homme et à la femme de donner la vie à un être qui est en image de Dieu. Qui a eu des enfants ici ? Levez la main. Maintenant, messieurs, baissez votre bras. Mesdames, relevez juste votre bras chacune, si vous avez eu des enfants. Est-ce que vous vous rendez compte que une, deux, trois, quatre, cinq fois peut-être, vous avez porté en vous un être qui est à l'image de Dieu ? Est-ce que ça n'aide pas à s'arrêter un peu, à contempler et à se dire « Waouh ! J'ai porté en moi l'image de Dieu. » Physiquement, ça ne diminue pas les douleurs. Hein. Mais est-ce que moralement, psychologiquement, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire ? Nous, on n'a pas cette chance. Je suis désolé, mais nous, on peut faire ce qu'on veut. Jamais on portera pendant 9 mois un enfant en image de Dieu en nous. Ah, bien sûr, on a participé. Cet enfant, c'est autant le nôtre. Mais vous avez cette merveilleuse bénédiction de la part de Dieu que pendant 9 mois, alors des fois, c'est un peu moins s'ils sont prématurés, mais vous portez en vous un enfant qui est à l'image de Dieu. Et je crois que ça, c'est une autre chose qui devrait nous faire avoir envie d'avoir des enfants, c'est qu'on peut porter l'image de Dieu en nous. On peut s'occuper d'un être à l'image de Dieu, l'enseigner et lui donner la direction pour rencontrer Dieu, pour que cette image qu'il possède, il est image de Dieu, eh bien qu'un jour cette image de Dieu soit entièrement restaurée par la présence de Christ en nous, par la vie de l'Esprit. Quand on sera dans la présence de Dieu, eh bien si nous appartenons à Dieu, l'image de Christ sera entièrement formée en nous, amen, parfaitement. Est-ce que ce n'est pas merveilleux de se dire ça pour nos enfants ? Ça me dépasse, hein, je ne vais pas faire semblant, mais c'est merveilleux. Est-ce que ça ne change pas un peu quand même le regard qu'on porte sur nos enfants ? Ah, je ne dis pas, hein, si Zoé fait la pitre, je vais toujours quand même la disputer, elle m'énervera quand même. Hein. Je ne pense pas qu'un jour je serai débarrassé entièrement de mon agacement quand elle fait des bêtises. Mais même Dieu qui nous aime, il sait nous reprendre. Hein. Mais cette pensée, elle m'aide, parce qu'elle m'aide à regarder Zoé différemment. Et elle me rappelle que quand elle fait des bêtises qui m'énervent, ben moi aussi je fais des choses qui, plus qu'énerver Dieu, peuvent le blesser, l'attrister. Et du coup, est-ce qu'on a déjà regardé nos enfants en se disant, ben mon fils, ma fille, ben il est en image de Dieu ? Est-ce qu'on se rend compte de l'ampleur de la bénédiction que Dieu nous fait, gracieusement, de façon imméritée ? Et vous le voyez déjà, hein, il y a des lignes directrices de mon message que je donnerai dans 2 semaines qui se dessinent déjà un peu. Est-ce qu'on se rend compte de la grâce imméritée que Dieu nous fait quand on a des enfants ? C'est pour ça que moi, mon cœur est brisé quand j'entends des gens qui me disent « Tu sais, moi, je n'ai pas été voulu par mes parents. » J'ai une amie à moi qui m'a dit « Moi, j'aimerais tellement avoir des enfants, mais ma mère s'est tellement mal occupée de moi que j'ai tellement peur de rendre un enfant malheureux. Ça me rend tellement triste. » Mais quand on donne la vie à un enfant qui est appelé à connaître son Créateur, à être réconcilié avec Dieu par Christ, à être conduit par le Saint-Esprit pour que l'image de Christ au renouvellement de toutes choses, elle soit complètement établie en lui pour l'éternité. C'est extraordinaire que Dieu nous confie des enfants à nous. À nous. Et qu'il leur permette un jour, au travers de nous aussi, de rencontrer le Seigneur. Nous ne méritons rien de cette grâce. Nous ne méritons pas que Dieu nous donne des enfants. nous croyons que nous décidons. Un minimum, bien sûr. Mais l'enfant n'est pas un produit de consommation que je commande si j'en ai envie. C'est une bénédiction qui vient de Dieu. Et si j'ai un enfant, je n'ai pas le droit de le délaisser, de l'abandonner, de le mettre de côté. Parce que Dieu m'a béni par lui. Il est vrai cependant qu'il y a des questions qui peuvent être dures, difficiles, qui restent. Je ne prétends pas que je vais répondre à toutes ces questions aujourd'hui, mais voici quelques-unes des questions qui peuvent exister. Et si vous êtes touché par une de ces choses-là ou par autre chose que je n'ai pas citée mais qui vous pèse, venez me voir aussi pour en parler, qu'on puisse discuter ensemble, qu'on puisse prier ensemble, que je puisse vous encourager avec la parole du Seigneur. Trouvez une personne à qui en parler, à qui vous ouvrir, avec qui prier. On a jeûné pour l'unité. Maintenant, il faut pratiquer. Si quelqu'un a besoin, eh bien qu'on soit là pour lui. On peut se demander, je l'ai abordé rapidement, mais pourquoi la stérilité ? Pourquoi est-ce que Dieu ne me donne pas d'enfants ? On peut se dire aussi, mais si les enfants sont une bénédiction, pourquoi c'est si dur de les élever ? Pourquoi il y en a, ça paraît simple, de les élever, certains de nos enfants, et puis d'autres, comme on dit des fois, c'est la croix et la bannière. Si c'est une bénédiction, pourquoi c'est si dur ? Qu'est-ce que je peux faire pour que Dieu renouvelle ma vision sur mes enfants ? Mes enfants, ils veulent rien savoir de Dieu. Comment je peux les aimer et les considérer comme une bénédiction dans ce cas-là ? Mais peut-être aussi, certains d'entre vous, ou des gens qu'on connaît, peut-être se disent « Mais moi, je n'ai pas été désiré. » Je suis ce qu'on appelle un accident. Une bénédiction, ça devient un accident. C'est horrible. Et on ne devrait jamais accepter que quelqu'un se considère comme étant un accident. Peut-être des fois, on peut se dire, mais on a essayé de faire avorter ma mère. Ou alors, mon père m'a abandonné. Est-ce que je suis vraiment une bénédiction ? Est-ce que vraiment Dieu m'aime ? On a le droit de se poser ces questions-là. Ce n'est pas une honte de se questionner sur ça. Et en tant que parent, on peut se dire aussi, mais comment est-ce que je peux bien aimer, bien aider et bien élever mes enfants pour les conduire à connaître Dieu personnellement ? C'est bien qu'ils soient une bénédiction, mais s'ils se perdent, c'est horrible. Comment je peux faire pour qu'ils connaissent Dieu ? Comment je peux aider mes enfants à prendre conscience de leurs valeurs ? Pas celles que le monde dit qu'ils ont. Moi, quand j'étais jeune, mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent, j'avais pas d'habit de marque, on se moquait de moi. Je pensais que ma valeur, c'était ça. Ma voiture, elle est abîmée, je pourrais avoir honte. Je m'en fiche. De toute façon, le jour où le Seigneur revient, ma voiture, qu'elle soit abîmée ou pas, ça ne changera rien à mon destin. Alors, je dis pas que si j'accroche ma voiture, je vais être content. Mais ma valeur, elle ne dépend pas de ces choses-là. Elle ne dépend pas du nombre d'amis que j'ai, elle ne dépend pas de la popularité que j'ai, elle ne dépend pas de la qualité de mes vêtements, de la beauté de ma maison, de la grandeur de mon jardin ou quoi que ce soit. Ma valeur, elle dépend de ce que Dieu a dit de moi par David. Et encore plus aujourd'hui que je suis son enfant, par le sacrifice de Christ, ma valeur est encore plus grande. Ou en tout cas, je devrais me voir avec encore plus de valeur. Pas pour ma propre personne, pas pour mon propre plaisir, mais pour la gloire de Dieu. Et du coup, comment je peux aider mes enfants à prendre conscience de leur valeur alors ? Celle qui leur vient de Dieu, comment je peux la leur témoigner ? Comment je peux ne pas être un obstacle pour eux ? Je ne peux pas vous dire que je peux répondre à tout pleinement. La Bible nous donne des indications, l'expérience nous aide aussi à discerner des choses. Mais si vous êtes touché par une de ces questions, ou plusieurs, ou d'autres que je n'ai pas citées, ne restez pas seul avec ces questions. Parlez-en au Seigneur, parlez-en à un frère, à une sœur de confiance, priez avec, demandez la restauration. Moi, j'ai dû demander à Dieu que Dieu me dise « C'est pas ta faute si ta mère est morte. » J'ai eu besoin que Dieu me restaure sur ça. J'ai eu besoin que Dieu vienne m'aider. Parce que j'étais blessé, je souffrais dans mon cœur. Ayons confiance en Dieu, en sa parole, sa justice, son amour. Et rappelez-vous que les uns les autres, nous sommes disponibles pour prier, pour nous encourager. Ne restez pas seuls. Et maintenant, j'aimerais vous lancer 3 défis. Parce que si je m'arrête maintenant, c'est trop simple. Le but d'une prédication, c'est que ça vous touche, que ça vous interroge, que ça vous transforme intérieurement pour que ce que vous faites en pratique soit également changé. Alors voilà 3 défis que je vous propose. Priez le Seigneur pour qu'il nous aide à voir nos enfants comme une bénédiction. Et si le Seigneur souhaite qu'on ait des enfants, eh bien qu'il puisse incliner notre cœur pour qu'on ait ce désir aussi. C'est sûr que quand je n'étais pas marié, j'avais une certaine liberté. Quand je me suis fiancé, j'avais un petit peu moins de liberté. Ou en tout cas, je vivais une vie différente. J'avais la liberté d'être avec la personne que j'aimais. C'est une liberté qui est géniale, exceptionnelle. Quand je me suis marié, j'avais moins la liberté que j'avais quand j'étais pas marié, forcément, mais je vivais avec mon épouse, avec Chantal, des choses que je n'aurais pas pu vivre sans le mariage. Et quand on a eu Zoé, et maintenant qu'elle est là, eh bien, les choses ont encore changé. Mais si vous me laissez le choix, je ne retourne pas là où j'étais avant. Je voulais cette vie, j'aime ma femme et j'aime mon enfant. Et je ne retournerai pas en arrière. Et je vous le dis parce que des fois, on se dit, moi, je ne veux pas d'enfant parce que ça va me gêner, ça va coûter de l'argent, on va falloir s'en occuper, on va falloir lui donner à manger, il va falloir l'apprendre, lui apprendre des trucs et tout ça. C'est trop compliqué. Oui, des fois, c'est dur, mais c'est exceptionnel. Je ne voudrais pas d'une autre vie. Je ne voudrais pas retrouver ma relative liberté de quand j'étais célibataire. Le deuxième défi, après avoir prié pour ces choses-là, c'est de prier pour que Dieu nous éclaire et qu'il nous guérisse. Si on souffre actuellement ou si on a souffert vis-à-vis de la question de l'enfant, d'avoir des enfants, d'être l'enfant de quelqu'un ou autre, tout ce qu'on a abordé, hein, ben que Dieu puisse nous montrer. Parce qu'il y a peut-être des choses en nous qui sont là dont on ne prend pas conscience. Et que Dieu veut aussi mettre en lumière pour qu'on soit pleinement heureux, pleinement joyeux avec lui, qu'on soit dans la paix. Si on ne se sent pas aimé, bien que Dieu puisse nous donner cette conviction qu'on est aimé et qu'on a été voulu. Et les enfants, vous savez, des fois, vous n'avez pas envie de venir à l'église le dimanche. Parfois, scandale, il faut même venir une fois dans la semaine. Et du coup, vos parents, ils vous énervent. Je ne vous demande pas qui a déjà été énervé par ses parents à cause de ça, parce que je ne veux pas faire de drama dans les familles. Mais je le sais parce que j'ai été comme vous. Je n'ai pas toujours cru en Dieu, je n'ai pas toujours voulu aller à l'église. Quand vous venez à l'église, dites-vous que vos parents sont en train de vous donner la meilleure chose au monde que vous puissiez avoir. Peut-être que, oui, vous ne pouvez pas rester à la maison pour regarder téléfoot. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Vous ne pouvez peut-être pas rester à la maison pour jouer aux jeux vidéo. Ce n'est pas grave non plus. Vous ne pouvez peut-être pas rester à la maison pour faire X ou Y chose. Ce n'est pas grave. La meilleure chose que vos parents font pour vous, c'est qu'ils vous amènent à l'église et que vous pouvez entendre parler de Dieu. Vous ne vous rendez pas compte, les enfants, hein, mais vous ne vous rendez pas compte en tant que parents à quel point on prie pour nos enfants. À quel point on veut que vous soyez sauvés. Sans doute, ça vous dépasse et c'est normal, hein, mais vous ne vous rendez pas compte à quel point on a le désir que vous aimiez être ici. À quel point on a envie que vous aussi, un jour, vous puissiez dire, mais bah ouais, bon, ça m'embêtait, hein, mais maintenant, je suis bien content. Il y a des fois où ça m'a embêté, hein, vraiment, j'avais pas envie d'y aller. Hein. J'étais pas chrétien, je voulais pas de Dieu, mais Dieu voulait de moi. Vos parents font pas ça pour vous embêter, hein. Ils font pas ça pour vous mettre des bâtons dans les roues, pour être pénible, pour être méchant. Ils font ça parce qu'ils vous aiment. Et c'est pas vous laisser à la maison faire ce que vous voulez ou autre qui prouvera l'amour que vos parents ont pour vous. On a de l'amour pour vous en tant que parents. Et si j'ai commencé à prier quand j'avais 19 ans, c'est parce que ben je sais que se tourner vers Dieu, c'est pas la chose la plus évidente et qu'on a besoin que Dieu fasse quelque chose. J'ai dépassé l'heure, je vous demande pardon, et je l'ai beaucoup dépassé, j'entends la cloche. Mais le Seigneur m'a vraiment mis ça à cœur. Qu'on puisse aimer nos enfants pour ce qu'ils sont. Pas pour ce qu'ils seront un jour, pour ce qu'ils sont maintenant. Je vais juste prier pour terminer, mais que le Seigneur vraiment puisse toucher nos cœurs et qu'il puisse nous restaurer. Et les enfants, je vous dis aussi une chose, je ne suis pas que le pasteur de vos parents. Je ne suis pas juste disponible pour parler avec vos parents. Je suis aussi disponible pour vous. Et c'est pas parce que je porte une veste et tout comme ça que je suis un mec rébarbatif. Hein. Peut-être des fois un peu, hein, j'avoue. Mais j'ai aussi à cœur de pouvoir m'occuper de vous si vous avez besoin que je m'occupe de vous. Et c'est pas parce que vous allez me raconter des trucs que je vais tout répéter à vos parents. Hein. Mais ce message, il n'était pas que pour vos parents, il était aussi pour vous. Vous êtes des bénédictions et on vous aime. Même quand vous sortez pendant la prédication, même quand vous jouez aux cartes dans la cuisine, même quand vous courez. Je vous vois, hein. Je vous connais. Mais je vous aime quand même comme ça. Je ne m'attends pas à ce que vous soyez parfait. Mais sachez qu'on vous aime. Et que notre désir, c'est vraiment que vous puissiez rencontrer le Seigneur. Je vais juste conclure. Père éternel, je te remercie parce que ben, je suis ton enfant. Et je peux t'appeler Père. Et que maintenant que je suis Père, ben, je crois que je comprends mieux aussi ce que c'est pour toi d'être mon Père. Je te prie, Père éternel, pour que chacun de nos enfants ils se sentent aimés à leur juste valeur. Qu'ils comprennent qu'ils sont une bénédiction pour leurs parents. Ça ne leur dispense pas d'être obéissants et toutes ces choses-là, mais ils sont une bénédiction pour leurs parents et que nous, en tant que parents, on puisse regarder nos enfants et leur dire « Je t'aime » et t'es une bénédiction de Dieu pour moi. Que tu puisses réparer encore nos familles dans lesquelles il y a peut-être eu des choses vraiment difficiles. On ne veut pas nier, Seigneur, qu'il y a pu y avoir des choses atroces et très dures dans les vies. Mais ce qu'on veut dire, c'est que toi, tu peux réparer toutes choses. Et si certains d'entre nous, on est peut-être brisés, blessés à certains niveaux pour certaines choses, je te prie que tu nous le dises, que tu nous le montres, si on ne le sait pas encore, pour qu'on puisse être réparé, restauré par toi. Tu n'as pas pris tellement de soin à nous tisser dans le ventre de notre mère pour qu'on reste cabossé aujourd'hui. Je te prie vraiment, Père éternel, pour qu'en tant que parents, on ait une vision renouvelée sur nos enfants. Qu'on puisse les aimer, qu'on puisse être patient envers eux. Qu'on puisse les considérer comme toi, tu les considères. Nous nous remettons vraiment entre tes mains, Père éternel, et nous te demandons encore de faire des choses glorieuses pour nous, pour que tu sois glorifié. Pas juste pour notre bien-être, mais pour que tu sois glorifié. Je remets toutes choses entre tes mains, Père. Amen.